toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie à France. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Elisabeth Le Quéré.
L'ère des séries sonne-t-elle la revanche des scénaristes ? Ces auteurs, souvent dans l'ombre de ceux qui brillent devant les projecteurs, acteurs et cinéastes, tiennent-ils enfin la reconnaissance des professionnels et du public avec ces œuvres au long cours qui fidélisent et rassemblent toujours plus de spectateurs à travers le monde ? Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, nous découvrons les coulisses, enfin, nous ouvrons le moteur des séries, en tout cas de certaines d'entre elles. Ainsi soit-il, Engrenage ou Les Revenants pour la France, Borgen pour le Danemark, I May Destroy You pour la Grande-Bretagne, Ose ou Trémée pour les États-Unis. Avec vous, Pierre Langlais, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialisé dans les séries et vous écrivez dans l'hebdomadaire culturel Télérama. Vous venez de publier Créer une série aux éditions Armand Collin. Et nous sommes en ligne avec Vincent Poimiro. Bonjour.
Bonjour.
On a parlé récemment de vous, d'ailleurs, dans cette émission, puisqu'avec David Elkaïm, vous avez écrit la première saison d'En Thérapie, la série qui cartonne sur Arte. On évoquera sans doute cette question avec vous, mais si vous êtes cité dans le livre, c'est au titre d'une autre série diffusée sur Arte, Ainsi soit-il, ou le quotidien d'aspirants prêtres dans un séminaire. Pierre Langlais, vous publiez donc ce livre « Créer une série ». Alors, il faut préciser que ce n'est pas un manuel à l'usage des apprentis scénaristes. Il n'y a pas de recette, mais vous avez rencontré les showrunners, comme on dit, les chefs d'orchestre de différentes séries françaises, européennes ou américaines.
Oui, pour moi, c'est un manuel émotionnel. Alors, même s'il y a des choses techniques dedans, hein, sur comment on aborde les personnages, comment on construit l'univers, il y a quand même des leçons à tirer. Ce que je dis en introduction, c'est que ça ne peut pas être un pur manuel puisqu'il n'y a pas de loi universelle de comment réussir une série. En l'occurrence, celles et ceux qui s'expriment dans ce livre, quelles que soient leurs origines, ont réussi leur série. Donc, évidemment, puisqu'ils ont réussi, ce qu'ils racontent est plutôt l'histoire d'un succès, mais aussi l'histoire d'un long chemin. C'était d'ailleurs mon titre de travail à la base, de ce long chemin de la création sérielle qui est à la fois extrêmement réjouissant et particulièrement périlleux et douloureux même, puisqu'il y a des récits qui parlent vraiment de souffrance psychique, de cet investissement sur le long terme que ça demande et de tous les efforts à la fois créatifs et personnels que ça demande aussi, parce que comme nous, téléspectateurs, quand on regarde une série, on s'engage dans quelque chose sur la durée et on se reconnaît et on s'identifie. Et la catharsis fonctionne à fond avec la série télé. Et bien, elle fonctionne aussi du côté de celles et ceux qui les écrivent.
Pour vous, Pierre Langlais, Sophie a cité des sommets hein, de la série. Borgen, I May Destroy You, Les Revenants, etc. C'est quoi une bonne série ?
Évidemment que le scénario est clé dans une série télé et donc les personnages. D'ailleurs, une des questions que je pose, c'est est-ce qu'on doit commencer par les personnages ? Est-ce que finalement tout ne repose pas sur les personnages ? La réponse n'est pas aussi simple. On voit avec Ainsi soit-il, puisqu'on en parlait avec Vincent Poimiro, que c'est une série qui doit beaucoup à son arène, comme on dit. Donc le point de départ, c'est plutôt le lieu, le séminaire dans cette série-là. Et ensuite, on va construire des personnages et ensuite l'histoire. Mais en fait, il faut que tout soit soigné. Mais pour moi, oui, si vous me demandez ce qui compte le plus, est-ce que c'est une intrigue incroyable ou des personnages forts, je vous répondrai d'abord des personnages forts. Et évidemment, la réalisation n'est pas secondaire. La réalisation est très importante. Et d'ailleurs, Ainsi soit-il, est co-créée par un réalisateur. Et donc, il faut que tout le monde... C'est un travail d'équipe, la série télé, encore plus que le cinéma. C'est un travail d'équipe. Et si on néglige une des étapes, on risque de se rater.
Vincent Poimiro, on parle donc de l'ère des séries, mais vous pouvez sans doute en témoigner. Le chemin a été long, surtout quand on est un scénariste, en France en tout cas. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a pris beaucoup de temps et que c'est grâce notamment au succès venu des États-Unis, voilà, certains des exemples des séries qui sont citées, comme voilà, je pense notamment The Wire, enfin je pense à d'autres séries américaines, que ça a peut-être permis un déclic aussi en France?
À n'en pas douter, évidemment, c'est bien parce que
quelque chose a changé dans la façon de raconter les histoires en série, on va dire aux États-Unis, dans la télévision américaine, à la fin du XXe siècle, on va dire, que quelque chose s'est ensuite répandu dans le monde entier. Après, et pas qu'en France, et probablement aussi en Europe du Nord, en Israël, et puis maintenant un peu partout, hein, en Italie, etc. Donc, après, les formes de récits que les êtres humains s'échangent, elles circulent parce qu'elles sont universelles aussi. Enfin, c'est ce que je veux croire. Donc, après, il y a la question de, dans une industrie qui est la nôtre, comment les milieux, on va dire, nationaux résistent plus ou moins, ou voilà, ont plus ou moins de lenteur à faire la place à ces évolutions. Qui sont d'abord des évolutions demandées par le public, nous qui expérimentons en voyant des séries, des endroits d'expérience humaine inédites dont on n'avait pas idée, et en même temps qui nous touchent énormément et qu'on reconnaît effectivement. On aimerait, nous, spectateurs, qu'elles soient racontées aussi chez nous. Voilà.
Devenir prêtre, est-ce le bon choix ? Chaque matin, je me réveille en me posant cette question. Et chaque matin, une même pensée m'assaille invariablement. Et vous, jeunes gens que nous accueillons dans ce séminaire, serez-vous capables, avec nous, de faire ce choix ?
J'aimerais que vous preniez encore un délai de réflexion.
C'est tout réfléchi. C'est la rentrée, je pars.
Croyez-moi, se retirer du monde au lieu de l'affronter, ça ne réglera pas vos problèmes.
Le discernement. C'est pour comprendre le sens de ce mot que vous êtes ici. Serez-vous avec nous, dans ces murs, et avec l'aide du Christ, distinguer les vrais signes de votre vocation ?
Voilà un extrait d'Ainsi soit-il, votre série, enfin en tout cas la série pour laquelle vous êtes cité, Vincent Poirmeiro, dans le livre de Pierre Langlais, une série diffusée sur Arte entre 2012 et 2015. Alors Pierre Langlais a posé les mêmes questions à tous ceux qu'il a pu rencontrer, point de départ de la série. Alors je vous la pose à mon tour, Vincent Poirmeiro. Quel était le point de départ d'Ainsi soit-il ? Donc, je rappelle, une série sur des jeunes aspirants prêtres. Enfin, en tout cas, ils sont tous dans un séminaire.
On pourrait dire qu'il y a deux points de départ. Il y a une cause externe qui est justement la rencontre avec Bruno Nahon, un producteur qui, lui, avait l'idée et l'envie de faire une série qui se passerait dans l'église, dans le milieu de l'église. Et puis, il y a l'endroit où, moi, cette discussion, brusquement, me fait me rendre compte que en partant de cet endroit-là que je connais pour des raisons biographiques, nous pourrons parler non pas juste d'un endroit sociologique, mais de la question de manière hyper moderne, de la question de l'engagement dans la société actuelle.
Vous disiez donc pas de point de vue sociologique, là c'est pour ne pas faire un catalogue à travers des personnages des différents types qu'on rencontre dans un séminaire, ou au contraire, chaque personnage devait être un représentant ?
Non, Ainsi soit-il n'est pas une enquête sur l'Église. Ainsi soit-il est une fable, on va dire, qui utilise ce milieu-là, certes de manière très documentée, mais avec comme boussole pour trier ce que ça peut nous raconter d'universel et sur ce que c'est qu'aujourd'hui vouloir mettre du sens dans sa vie. Sachant que les prêtres sont intéressants là-dedans parce que leur choix est tellement inactuel et en conflit avec les valeurs actuelles de la société que tout ça sera très intense à raconter et que le principe de la dramaturgie, justement, c'est le conflit. Et que plus c'est conflictuel, plus il y a des choses à montrer. Et donc il y a un récit en images.
Ce qui est amusant, Pierre Langlais, dans votre livre, enfin, ce qui est amusant, c'est que chaque créateur a sa propre... Enfin, non seulement sa propre conception, mais son rapport. Par exemple, Tom Fontana, l'auteur de Oz, il dit qu'il écrit sur ce qu'il ignore. D'autres, au contraire, créateurs, au contraire, ont besoin d'écrire sur ce qu'ils connaissent bien. Il n'y a pas une règle.
Non, il n'y a pas de règle. Et c'est ce que dit le livre, mais ce que je trouve assez beau, c'est que finalement, chacun a son approche. Comme vous le disiez, Tom Fontana, qui par ailleurs, lui, refuse d'écrire sur l'actualité presque. C'est-à-dire qu'il raconte comment il vivait à deux pâtés de maison du World Trade Center quand les attentats sont arrivés. Et que pourtant, Oz, qui était sa série, qui se passe dans le milieu carcéral, donc qui est très ancré dans la société américaine, même de façon métaphorique, n'a jamais prononcé le mot du 11 septembre, parce que lui, émotionnellement, se sentait pas d'aborder la question. Il se sentait trop touché par ça. Il y en a qui, au contraire, vont dire, bah moi, en fait, tout ce qui me touche de près ou de loin, je vais l'utiliser. Donc, il n'y a pas de loi. Par contre, je crois qu'il y a une même sensibilité. Et que chez un David Simon, le créateur de The Wire est Trémé, dans le livre Trémé, qui est un auteur politique, en tout cas, peut-être celui qu'on met le plus en avant comme le grand auteur politique naturaliste américain de série du moment, comme chez Fanny Herrero, ou comme chez Michaela Coel, qui a fait Amé Destroy You, qui est une série qui parle de son propre viol, qui est donc vraiment dans l'intime, il y a cette même quête d'une vérité humaine et émotionnelle. Et moi, c'est ce que je suis allé chercher dans ce livre. C'est pas de dire, OK, voyez exactement comment vous allez faire pour faire une bonne série. Il faudra mettre les personnages comme ci et comme cela. Non, personne n'est d'accord. Personne ne travaille dans le même ordre. Mais au final, la quête de l'auteur, cet engagement-là, il est commun et je pense qu'il y a une communauté universelle de la création, de gens qui sont de tous horizons et de toutes émotions différentes, mais qui vont, eux, tous puiser dans une encre très intime, quelle que soit leur intimité. L'intimité de David Simon, c'est d'être politique. L'intimité de Michaela Coel, c'est d'être presque dans ses tripes, en permanence, dans ses propres tripes à elle. Bah, au final, les deux séries, Amé Destroy You comme Trémé, sont des séries politiques.
L'occasion d'une petite pause musicale justement avec Trémé, hein, qui, je le rappelle, suit tout un groupe d'habitants de la Nouvelle-Orléans, la ville dévastée par l'ouragan Katrina. Donc la Nouvelle-Orléans est un des personnages du film, de même que, évidemment, la musique, hein, le jazz, forcément, est férocement vivant. Trémé, hein, la série très musicale de David Simon. On a le sentiment, enfin, c'est plus qu'un sentiment, je pense que c'est une réalité, qu'en une dizaine d'années, les séries ont couvert, presque ouvert toutes les voies, couvert tous les champs. Pierre Langlais, vous avez le sentiment d'être toujours, on est toujours en haut de la, dans la pente ascendante de l'âge d'or.
C'est très difficile, c'est une question qui est très difficile. En toute objectivité, peut-être pas. Moi, j'aime bien employer l'expression de l'âge des pépites. Parce qu'en fait, l'âge d'or, c'est une époque où il y avait moins de séries en volume. Donc en fait, on avait l'impression que tout ce qu'on voyait était formidable. Surtout les séries qui venaient d'une chaîne comme HBO, où il y a eu The Wire, Les Sopranos, Six Feet Under et consorts. C'est une chaîne américaine payante, câblée. Ou si on regarde objectivement, de 97 à 2010, il y a quasiment que des chefs-d'œuvre. Ce qui est assez extraordinaire. On est entre-temps passé dans ce qu'on a appelé la peak TV, c'est-à-dire une période où le nombre de séries a explosé. Et donc, fatalement, plus il y a de séries, plus il y a de chances qu'il y ait des ratés. Et peut-être plus c'est difficile, effectivement, que des œuvres viennent casser le moule, viennent renouveler le genre, etc. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut vraiment fouiller, tamiser, et d'où ma métaphore des pépites d'or, le flux qui nous arrive en permanence et qui est rempli de choses extrêmement mauvaises, faut le dire aussi, pour trouver ces pépites-là. Et ce qu'il y a de très fort en ce moment, c'est que comme le champ s'est ouvert énormément, on a des histoires nouvelles racontées par des gens qui avant n'avaient pas la parole, par d'autres minorités, par d'autres pays. On a des accès plus grands, donc en fait on va pouvoir aller voir des histoires qui sont peut-être pas formellement des choses qui vont renouveler les séries comme on a pu y avoir il y a 20-25 ans. Ça, c'est sûr. On a l'essentiel des formes contemporaines ont été faites. Mais par contre, on va pouvoir nous raconter des histoires sur des gens dont on ne connaît pas la vie. Et ce que disait Vincent tout à l'heure est vrai. Cette universalité-là, elle va y être. Moi, quand je regarde Pose, qui est une série sur la communauté trans afro-américaine des années 80 à New York. C'est très spécifique. Et je suis ému. Et je comprends ce qu'on me raconte. Et je partage des valeurs qui me sont racontées. Et c'est ça qui est extraordinaire avec la série télé.
Alors, donc, vous avez rencontré notamment des nouveaux auteurs, des jeunes auteurs comme Michaela Coel, dont vous parliez, qui est autrice, actrice aussi de la série.
Et réalisatrice et productrice.
I May Destroy You. Donc, cette jeune autrice noire, britannique, comédienne, donc, explore de façon cathartique et engagée, très énergique, le viol dont elle a été victime peu de temps auparavant dans cette mini-série diffusée sur OCS. Et là, on va écouter un passage, c'est au tout début, c'est dans le premier épisode, mais où c'est aussi, elle raconte aussi sa vie, son quotidien d'autrice.
Comment ?
Ah, cool ! Je trouve cool.
Alors ça y est, tu l'as terminé ?
Plus ou moins, ouais. Juste de petites modifs à faire et je pense qu'on sera pas mal.
Génial, génial. On a discuté avec Henny House. Aujourd'hui, on est le 21 et la deadline pour soumettre ton bouquin, c'est dans 4 jours.
Ah.
Si tu veux pouvoir être sélectionné pour la convention.
C'est super court.
Oui, mais un premier jet leur ira très bien.
Je pense qu'il doit déjà être tout à fait lisible en l'état. Tu n'as qu'à me l'envoyer.
Et je me mets dessus. Je te fais mes retours avant la fin de la journée.
Ouais, je viens juste de rentrer. Je suis encore un peu jet-lagué, mais je peux te l'envoyer demain.
Tu sais, chez Henny House, ils s'impatientent, alors si jamais on peut faire quelque chose...
Non, c'est bon, ça va. Juste quelques modifs à faire.
D'accord, super. Bon, bah, j'ai vraiment hâte de te lire.
Je pense venir taffer à l'agence toute la nuit, histoire de tout bien relire et de voir ce que j'ai besoin de...
Ah oui, y a pas de problème, ce soir, y a personne.
On pourrait passer pour te donner notre ressenti. Je peux me libérer demain dans la matinée, vers 10h ?
10h, c'est parfait.
Il faudra ouais. 3 ou 4 heures pour le lire et te faire un retour, d'accord ?
Alors, si on se voit à 10h et qu'il nous faut, disons...
4h
6h du mat. Vous l'aurez pour 6h du mat, Julienne.
Voilà un extrait de I May Destroy You, hein, la mini-série de Michaela Coel, diffusée donc sur OCS. Est-ce que... Je ne sais pas si on a bien entendu dans cet extrait, mais on comprend en fait qu'elle n'a pas travaillé sur le texte et qu'elle va être charrée toute la nuit. C'est fidèle, Vincent Poimiro. C'est un peu un reflet hein, de la vie d'un... Là, en l'occurrence, d'une autrice, mais je pense qu'elle parle d'elle-même, de sa vie de scénariste.
Écoutez, là, pour le coup, ce n'est que mon expérience. J'aurais plutôt tendance à dire plutôt non. C'est-à-dire que nous... Une des choses qu'on a dû apprendre pour justement pouvoir arriver à être audible dans le champ, c'est que il faut savoir travailler vite, bien et dans les temps. Donc on est plutôt assez organisé et puis on est en groupe. En général, on n'écrit pas seul en série. Enfin, moi, c'est pas comme ça que je travaille. Et du coup, évidemment, quand on a un planning à plusieurs, on a tendance à devoir se donner des moments fixes, des temps de lecture, voilà. Donc, je suis désolé pour l'image romantique de l'auteur. Ça peut m'arriver hein, de travailler tard la nuit, ou etc. Mais en général, je respecte les délais et on les respecte.
Pierre Langlais.
Mais le livre montre comment, justement, là aussi, il y a beaucoup de nuances là-dessus. Alors, tout le monde est victime de la deadline, hein, la fameuse, pour faire un anglicisme. D'ailleurs, David Simon dit à un moment, moi, ma meilleure recette contre la page blanche, c'est 250 personnes qui attendent de lire mon texte, et du coup, il y a bien un moment à faire que je l'envoie. Mais ceci étant dit, il y a des grosses nuances dans la façon dont les gens travaillent. Vincent Poimiro a travaillé en équipe, Michaela Coel est une solitaire, elle écrit toute sa série seule. Donc jusqu'au tournage, elle est dans une contrainte personnelle et elle raconte comment dans le livre, elle va même s'isoler au milieu des bois pour écrire son truc dans des conditions qui sont très particulières. Et Sean Ryan, le créateur du Polar The Shield, dit lui qu'avec ses équipes, il faisait exprès de se mettre à la bourre pour être en panique totale et du coup ressentir ce que leurs personnages, qui sont des flics corrompus, pourris, qui sont tout le temps dans une situation pas possible, ressentent. Et donc, il dit avec beaucoup d'humour, parce qu'il faut le dire aussi, c'est un livre où les scénaristes font preuve d'humour, beaucoup, ok, scénariste, c'est peut-être bien de vivre dans une situation de stress pour votre scénario, un peu moins pour votre santé, quoi, parce que... En tout cas, certains d'entre eux se mettent dans des états de stress assez avancés pour rendre en temps et en heure leur texte.
On a souvent, enfin en France, à l'image en tout cas pour l'écrivain ou même le réalisateur, l'auteur, puisqu'on est dans le pays de la politique des auteurs, mais enfin un peu seul, voire dans sa tour d'ivoire. Alors qu'au contraire, scénariste de série, Vincent Poimiro, et vous le disiez, c'est presque vous, votre seule façon de bosser, c'est vraiment... Quand on est auteur d'une série, on travaille forcément en équipe, on n'est pas dans sa tour d'ivoire.
Non, on n'est pas dans sa tour d'ivoire. Et puis, par ailleurs, après, Et Pierre le dit très bien, et effectivement, les différents témoignages le disent très bien aussi. Quelqu'un, un scénariste, un auteur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a un point de vue sur le monde ou qui a un point de vue sur l'expérience humaine et sur sa couleur et sur sa forme. Et chacun la trouve à sa manière, mais particulièrement moi, et je pense que je suis pas le seul. Dès le début, ça consiste aussi à enquêter, à rencontrer des gens, à se documenter, à lire dans des champs aussi divers que, je sais pas, l'économie, l'anthropologie, la psychanalyse, voire même des témoignages de vie très très bruts. Donc ça commence là, pour moi, d'être... Et puis ça continue, évidemment, avec le dialogue très fort qu'il y a entre les scénaristes et avec le producteur, puis ensuite avec le réalisateur et l'équipe de réalisation, la prépa, l'équipe de montage, et évidemment, tout du long, le diffuseur. Donc ce sont des œuvres dans lesquelles chacun de ces acteurs dont j'ai parlé, d'une certaine manière, se sentent représentés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'affectifs aussi, mais aussi beaucoup d'échanges, de dialogues pour faire la même chose tous ensemble.
Et quand vous disiez les recherches, donc là, je rappelle, hein, en l'occurrence dans le livre, vous parlez d'Ainsi soit-il. Donc j'imagine que vous avez dû effectivement vous pencher sur la formation des prêtres notamment et peut-être le quotidien des séminaristes. Est-ce que pour vous, ça fait partie du plaisir de découvrir un milieu que vous ne connaissez pas forcément? Est-ce que ça fait partie aussi peut-être de l'envie d'écrire une série? Quand vous avez lancé un projet?
Pour être honnête, dans ce cas particulier, j'ai commencé mon enquête très très tôt, c'est-à-dire à peu près quand j'étais baptisé, à l'âge de quelques semaines. Donc j'ai grandi dans un milieu assez connecté avec l'Église catholique. J'ai un grand-oncle qui était visiteur provincial d'un ordre réputé, les lazaristes, etc. Bon bref, donc j'ai des liens, mais... Probablement, c'est aussi une façon d'enquêter sur mes origines. Donc, la connexion à cet endroit-là, elle était plutôt d'ordre archéologique, effectivement. Mais il y a forcément un moment, quand on se dit qu'on fait un film sur un sujet qui est très très loin de nous, forcément un moment où on s'aperçoit, où on se rend compte, il vaut mieux que ce soit plutôt tôt dans le process, mais bon, où on se rend compte que c'est connecté à un endroit très profond de nous, sinon on n'aurait pas choisi ça. C'est qu'on a vu quelque chose, une sorte de canal d'énergie entre nos tripes, notre qui, ou je ne sais pas quoi, et ce sujet-là. Il y a quelque chose qui s'est mis à pousser, comme ça, et on le découvre tôt ou tard. Donc, voilà, on découvre des choses, mais on découvre aussi forcément pourquoi on était intéressé par cet endroit-là.
Alors, en l'occurrence, il y a nombre des créateurs cités dans votre livre. Pierre Lenglet sont partis d'une envie presque des tripes. Et puis, il y en a d'autres qui ont pris, hein, il y en a d'autres aussi, à d'autres cas où ils prennent, des scénaristes, des auteurs, prennent des dossiers, prennent à leur compte une série ou un projet existant.
C'est bon, ça. C'est très, très bon.
Je veux faire le film, mais il n'est pas question que je le fasse.
Du coup, je joue moi.
Même le Taking Nerve, à la fin, il n'était pas écrit, hein.
Moteur! Moi, j'ai regardé la caméra, là.
C'est ça, la vie, tu vois.
Oh là là, on entend hein, la bande-annonce de la série 10% Call My Agent, hein, qui cartonne sur Netflix, notamment aux États-Unis. Alors, c'est un cas particulier, Pierre Lenglet. Fanny Herrero, enfin, que vous interviewez, n'est pas à l'origine de cette série.
Non, elle n'est pas à l'origine de l'idée. Par contre, elle est à l'origine de la série. C'est là qu'il y a une nuance. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'elle est créatrice, d'ailleurs. C'est-à-dire que l'idée lui est amenée. Elle la récupère, si j'ose dire. Elle vient de Dominique Besnéard, qui est producteur de la série, et agent lui-même, en tant qu'ancien agent. Et elle raconte dans le livre, en fait, comment on fait sienne une idée qui n'est pas la nôtre, mais qui est forcément un travail qu'énormément de scénaristes doivent faire, a fortiori une époque où les adaptations sont devenues un genre dominant, que ce soit adaptation de roman ou d'une autre série. Et ce travail est à la fois technique. Elle parle, elle, d'une forme de gros Lego qu'elle doit détruire, c'est-à-dire que ce qu'on lui a donné, il faut qu'elle enlève les blocs, qu'elle les pète tous à plat pour ensuite reconstruire quelque chose qui lui conviendra mieux à elle. Et puis aussi, et c'est ce que raconte aussi Anne Landois, qui est arrivée après quelques saisons d'Engrenage, par quelle entrée je vais réussir à faire cette histoire mienne? Et c'est souvent par les personnages, justement. Et c'est de se dire, ok, ce personnage-là, c'est pas moi qui l'ai créé, mais il y a quelque chose dans ces émotions qui me touche. eh ben je vais essayer de changer ça, d'aller creuser, de lui inventer une autre histoire, de lui faire évoluer un petit peu sa personnalité. Et en fait, il y a un travail d'appropriation que je trouve tout à fait fascinant, qui est raconté d'ailleurs Fabrice Gobert, qui a fait Les Revenants aussi. C'est un film à la base de Robin Campillo qui était en projet de remake en forme sérielle, et il l'a pris à bras le corps et il en a fait une œuvre très personnelle. Donc en fait, même quand on n'est pas forcément, même quand on n'a pas envie de dire c'est la série créée par, en fait elle est créée par. C'est comme une recette. Les éléments que vous allez employer sont pas nécessairement vôtres, mais vous allez mettre ensemble quelque chose qui va devenir votre plat. Et c'est en ça que j'ai voulu inclure dans cette histoire-là aussi des gens qui n'avaient pas été les purs créateurs, c'est-à-dire dont l'idée n'était pas à l'origine la leur, et qui en ont fait leur histoire et leur récit.
Si ouais. Je peux me permettre.
Oui, Vincent.
Pierre, oui, de prolonger ce que tu dis, c'est l'idée de l'idéologie, on va dire même, enfin en tout cas de l'originalité absolue. Et artistiquement, une idéologie très récente, on va dire. Chez des gens comme Shakespeare, comme Molière, comme La Bruyère, comme La Fontaine, comme Racine, n'étaient absolument pas dans cette esthétique-là. Ils racontaient des histoires que bien d'autres avant eux avaient racontées, dans des formes que d'autres avaient inventées avant eux, et ça les empêchait pas de penser que dans ces contraintes-là, ils pouvaient faire quelque chose.
Et puis, alors, Vincent Poirmeiro, vous pouvez en témoigner, puisque vous étiez avec David El-Khaim à la tête des scénaristes qui avaient signé l'adaptation française de la série israélienne d'Agaï Levy, Beauty Pool, donc en France, connue sur Arte sous le nom de En Thérapie. Donc c'est un concept existant, mais que vous avez accommodé. Je ne sais pas, c'est peut-être pas un très beau terme, que vous avez fait vôtre avec David El-Khaim pour en livrer la version française.
Alors, nous avons été tenter d'être d'une fidélité assez grande à l'original. Simplement, effectivement, nous l'avons thématisé différemment, c'est-à-dire que nous avons voulu nous servir de cette forme-là, comme Haggai Levy, son créateur original, l'avait voulu et l'avait fait, pour être une grille de lecture d'un moment spécifique de la société française. Et donc là, nommément, les attentats de novembre 2015. Voilà. Donc, à partir de là, ça a eu des conséquences sur la forme, et nous n'avons changé que ce que nous avions à changer pour que ça raconte ça et que ça devienne ce miroir-là. Donc, c'est à la fois une adaptation fidèle et une réactualisation.
Donc, en thérapie saison 1, mais là, vous avez annoncé récemment que vous ne rempileriez pas pour la saison 2. C'est définitif, c'est sûr, ou il y a encore une possibilité?
Ah oui, c'est définitif. Non, c'est définitif. Mais c'est la même chose. On pourrait dire que, d'une certaine façon, cette forme-là, elle a déjà beaucoup circulé. Il se trouve que pour des raisons voilà, qui nous appartiennent, on le fera pas, mais d'autres voilà, le feront. Et chaque personne, d'ailleurs, qui le fait, il met quelque chose qui raconte un peu qui il est, voilà. Et ben nous on a fait ça, et d'autres vont prendre la suite à leur façon.
Pierre Langlais, vous signez à ce livre, créer une série, il y aura une saison 2, non, un livre 2.
J'y travaille. Ça sera différent. Ça sera toujours moi l'auteur là pour le coup. Je vais pas changer de scénariste, mais je travaille à continuer de faire ce travail-là en tout cas, et de d'aller chercher l'humanité dans celles et ceux qui font les séries, parce que c'est finalement ça qui me fascine moi. Ce que j'explique dans le bouquin, c'est comment finalement ces ombres, ces gens méconnus du grand public, parfois souvent d'ailleurs méconnus de moi-même, puisque je ne connais que leur œuvre, je ne connais pas les humains qui se cachent derrière, vont pouvoir me raconter quelque chose d'eux et de ce que c'est que de faire leur métier dans une histoire qui sera pour le coup mon scénario à moi, mais dont ils sont un peu les marionnettistes, puisque je ne fais que capter leurs paroles pour ensuite essayer de raconter quelque chose de cohérent. Mais en tout cas, j'ai cette envie, j'ai envie de continuer ça et de faire en sorte que cette chose fascinante qui est la série télé pour moi, qui fait partie de ma vie, de mon quotidien, je puisse la partager, non pas seulement à travers le biais critique, qui est le principal biais de mon métier à Télérama, mais aussi en disant à ceux qui aiment les séries, voyez comme ceux qui les font, quel que soit leur poste, sont comme nous, et finalement sont dans une expérience qui nous paraît totalement fascinante, extraordinaire, waouh, les scénaristes incroyables, les acteurs formidables, les réalisateurs, mais au fond sont traversés par les mêmes angoisses et les mêmes émotions que nous téléspectateurs.
Et justement, Pierre, quand vous êtes allé à leur rencontre, alors vous avez rencontré des superstars et puis des gens qui sont un petit peu moins connus, est-ce que vous avez l'impression qu'il y avait une sorte d'appétit pour eux de vous parler, de sortir de ce qu'on appelle un peu vulgairement le service après-vente? En gros, est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y a une sorte de manque de reconnaissance?
Alors, pour les Américains, le manque de reconnaissance, je pense pas, parce que les showrunners que j'ai eus, les Tom Fontana...
Vous êtes allé voir toutes
les
stars, en fait.
Ces gens-là sont aux États-Unis. Alors, ce sont pas des vedettes. Hein. Vous faites un sondage auprès des Américains, s'ils ont déjà entendu parler de David Simon. Je pense que vous avez 2%, même pas 1% des gens qui savent qui est David Simon. Encore moins en France. Donc, il faut pas non plus... C'est des stars à leur niveau, mais c'est quand même des stars de l'ombre. C'est pas David Simon. Il peut se promener où il veut, quand il veut. Personne veut lui demander un autographe. Ou alors, à l'occasion.
Vous, Vincent Poimiero, je vous entends rire. Est-ce qu'on vous a déjà demandé un autographe?
Non, alors ça m'est arrivé effectivement, mais c'était très troublant, donc c'est vraiment aussi le peu d'habitude que j'ai de ça. Une fois de croiser dans la rue un jeune homme qui avait dû me voir peut-être à la télé ou en photo et qui m'a dit « Ah, ainsi soit-il !» comme ça, il y a quelques années, un soir, c'était très drôle. Mais je crois que c'est la seule fois de ma vie effectivement où quelqu'un m'a reconnu. La rue, et peut-être ça va pas se produire de sitôt, donc toujours interloqué.
Il y a en tout cas, quoi qu'il en soit, pour répondre à votre question, un appétit, je pense, de raconter ces histoires-là, parce que je le sous-entends dans l'introduction de mon livre, on vit dans une époque d'ultra-communication. Moi, en tant que journaliste à Télérama, avec les scénaristes français, je peux parler tout le temps que je veux parler, c'est pas un souci, mais par contre, les États-Unis, les pays anglo-saxons, beaucoup ont mis en place, les séries télé sont devenues extrêmement populaires. Et du coup, il y a moins de temps pour parler, il y a moins de temps pour creuser, il y a moins de temps pour revenir sur des œuvres. Et quelqu'un comme David Simon, qui est très demandé par la presse, non seulement parce qu'il fait des œuvres qui sont très en vue par la critique, pas par le public, mais par la critique, mais aussi parce qu'il a une parole très engagée pendant l'ère Trump, il était très très vocal, il disait beaucoup de choses sur Trump, etc., apprécie pouvoir revenir sur des séries comme Trémé qui ont peut-être été moins vues, moins discutées et raconter l'histoire qu'il y a derrière. Je crois que c'est un vrai plaisir pour les scénaristes. Je pense que j'ai eu en face de moi 100% de gens avec leur personnalité, leur timidité ou leur générosité. J'ai senti une forme de libération et de plaisir de raconter cette histoire-là et de se livrer. Et d'ailleurs, je suis le premier étonné de certains passages où m'a vraiment confié des choses que j'ai trouvées très fortes et que j'ai pris non seulement pour une preuve de confiance de la part des scénaristes, mais aussi comme finalement, pour la première fois, on me demande pas juste pourquoi j'ai voulu raconter cette histoire-là. On me demande pendant 3-4 heures pourquoi intimement j'ai fait ce truc-là. Et je pense que c'est un métier, quoi qu'en dise Vincent Poimiero, qui est aussi solitaire, qui est aussi dans l'introspection, que ça fait du bien. D'ailleurs, on parle des psys dans le bouquin, et Vincent Poimiero, là, a fait une série, pour le coup, vraiment avec des psys, de ce besoin de confession, finalement, du scénariste, qui m'a servi pour ce bouquin-là, en tout cas.
Évidemment, le projet de Pierre est un projet vraiment passionnant, et évidemment, c'est rare et important de pouvoir prendre du temps pour avoir du recul sur ce qu'on a fait, essayer de le comprendre. Et vraiment, moi, la lecture m'a plongé comme ça dans une espèce d'habile de réflexion sur je sais pas comment dire, cette collectivité de travail à laquelle j'appartiens, et je m'en aperçois en lisant le livre. Et voilà, ça m'a vraiment fait énormément revenir sur la question de nos pratiques. Merci à toi pour ça, Pierre.
Et merci.
Et à mon tour de vous remercier à tous deux. Merci Vincent Poimiero, merci Pierre Langlais. Je rappelle le titre de votre livre publié chez Armand Collin, « Créer une série, témoignages croisés et confidences de plusieurs auteurs français et étrangers ». On fait le point maintenant sur l'actualité du cinéma avec vous, Elisabeth, mais juste après cette nouveauté musicale, Feu Chatterton, et un titre tiré de leur nouvel album, le titre c'est « Avant qu'il n'y ait le monde ».
Si je fais mes cils charbonnés et mes yeux de plus de lumière et mes lèvres plus écarlates, demandant à tous les miroirs si tout est comme je veux, nulle vanité je recherche, le visage qui fut le mien avant qu'il n'y ait le monde. Pourquoi me dire cruel? Pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait le monde. Avant qu'il n'y ait le monde. Qu'importe si je regarde un homme tout comme si c'était mon amour, quand pourtant mon sang est demeuré froid. Mon cœur ne bat pas plus vite. Pourquoi me dire cruel? Pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait le monde. Avant qu'il n'y ait le monde.
Vous êtes bien sûr RFI à l'écoute de tous les cinémas du monde. On fait le point sur le journal du cinéma et on commence avec les Césars qui se tenaient hier à huis clos ou presque. En un an, beaucoup de choses ont changé. Après la catastrophique édition 2020 sur fond de scandale Alain Terzian, de récompenses controversées à Roman Polanski, la direction des Césars a changé, devenant bicéphale et paritaire, Eric Toledano et Véronique Kella. Et c'est aussi un duo paritaire qui animait la soirée, Roche Dizem, le président, et Marina Foïs, la maîtresse de cérémonie.
Et ce qui nous manque, c'est ce qui nous lie, c'est les émotions qu'on vit ensemble et qui nous font dire qu'on n'est pas tout à fait seul. Et pour un truc essentiel, c'est déjà pas mal. Alors, ouais, on a hâte de vous retrouver.
Devant 200 personnalités triées sur le volet, testées et dûment masquées à l'Olympia, bénéficiant d'un orchestre sur scène dirigé par Benjamin Biolay, la remise des trophées du cinéma français entame une nouvelle ère. C'est palpable dès le début avec les deux trophées des révélations attribués à des comédiens noirs.
Alors, le César du meilleur espoir féminin est attribué à Fatia Youssouf dans Mignonne. Bonjour.
Et le César du meilleur espoir masculin est attribué à Jean-Pascal Zadi,
Tout simplement
noir. Jean-Pascal Zadi, acteur et réalisateur de Tout simplement noir, se saisit de la tribune offerte.
Le film Tout simplement noir, avant tout, parle d'humanité. Dans cette optique, j'ai envie de parler de Adama Traoré, j'ai envie de parler de Michel Zecler. J'ai aussi envie de dire qu'on peut se demander si notre humanité compte. Lorsqu'on voit que l'esclavage a été retenu comme crime contre l'humanité en 2001 et qu'aujourd'hui, sur l'espace public, certaines personnes qui ont activement participé au crime contre l'humanité sont glorifiées par des statues.
Au fil de la soirée, remettant ou césarisé en profite pour demander la réouverture des salles de cinéma, Stéphane de Moustier reçoit le César du meilleur scénario.
Alors je m'adresse à vous, Madame Bachelot. Mes enfants, ils ont un âge merveilleux, ils ont 8 ans, 6 ans. Ils peuvent aller chez Zara, ils peuvent pas aller au cinéma, c'est incompréhensible.
Mais la séquence la plus saisissante est offerte par l'actrice Corinne Maziero, qui, dans un geste punk, se dénude entièrement pour exprimer son soutien aux intermittents.
Qui veut la peau de Roger l'intermittent ? Maintenant, on est comme ça, tout nu. Voilà.
Impossible de savoir ce qu'en pense Roselyne Bachelot, on ne la voit pas à l'écran. Tout comme est absent le principal gagnant de cette édition, Albert Dupontel, qui décroche 7 Césars, dont les deux plus prestigieux, meilleur film et meilleure réalisation pour sa comédie désespérée Adieu les cons, tout un programme.
On passe au reste de l'actu cinéma. Elisabeth, après 64 ans de bons et loyaux services, Léo le Lion est remercié.
Oui, alors Léo le Lion, c'est le lion, on vient de l'entendre, c'est le lion de la métro Goldwyn-Mayer. Il a été remplacé par un lion de Pixel. Alors évidemment, ce n'est plus tout à fait le même type de rugissement. Écoutez bien, Sophie, je vous propose un petit test sonore. Version 1. Version 2, Lion de Pixel. Vous entendez la différence?
À peine.
Mais en fait, en vérité, à l'image, on voit bien que c'est un Lion de Pixel. Il est beaucoup plus clair, beaucoup plus dessiné. Enfin voilà, ce lion numérique devait faire sa première sortie pour le lancement du nouveau James Bond, et donc on devra attendre.
En tout cas, toujours, on attend en France, où les salles sont toujours fermées, cinédiées.
Oui, est-ce que vous savez, Sophie, le nombre de films non diffusés depuis le début de l'épidémie?
Non.
Alors, selon le distributeur Jean Labbadie, ce sont 250 films français et 150 films internationaux qui sont rangés sagement sur les étagères en attendant la réouverture des salles.
Énorme embouteillage en perspective. Et pendant ce temps-là, en Chine.
You Jake Sully? I'd like to talk to you about a fresh start on a new world. Be making a difference.
A New World, le nouveau monde d'Avatar qui est ressorti hier dans les salles chinoises. Alors si le blockbuster en 3D de James Cameron parvient à engranger, le chiffre est très précis, 7,4 millions de dollars, eh bien il repassera devant Avengers Endgame, ce film de super-héros cher à votre cœur, Sophie, pour redevenir le champion du box-office mondial, c'est-à-dire le film de l'histoire du cinéma qui a fait le plus de recettes.
On passe à un festival d'un genre particulier. Alors, rien à voir avec la longueur d'Avatar. Là, c'est presque tout l'inverse. Un mobile, une minute, un film. Voici les trois mots d'ordre du Mobile Film Festival qui invite depuis 16 ans de jeunes cinéastes à s'essayer au format court avec un téléphone mobile en guise de caméra. Cette année, le festival a lancé sa première édition panafricaine avec une sélection de 51 films d'une minute venus de 23 pays d'Afrique. C'est visible en ligne jusqu'à mercredi, jusqu'au 17 mars. Ismaan Lamar est une réalisatrice, scénariste et productrice tunisienne. Elle est membre du jury de cette édition et elle répond aux questions de Samuel Glaise Esteban.
Je me suis dit, en fait, qu'est-ce qu'on peut bien raconter en une minute? Déjà, des fois, avec des longs métrages, on a tellement de choses à raconter qu'on a du mal avec une heure et quelques. Alors, je me dis, en une minute. Donc, c'est beaucoup de curiosité et c'est aussi l'ouverture sur l'Afrique. La curiosité de découvrir des histoires venant de toute l'Afrique et des réalisateurs, bien sûr, des jeunes réalisateurs.
Qu'est-ce que ça change de tourner un film sur téléphone portable?
C'est déjà dire un peu aux jeunes que c'est possible. C'est beaucoup plus accessible que comme on fait des films en fait avec une grande équipe, beaucoup de matériel, de l'argent. Là, c'est dire aux jeunes, vous pouvez prendre un téléphone et y aller quoi. À partir du moment où on a une petite histoire, il faut y aller. Il faut pas attendre d'avoir toute l'organisation en place pour se mettre au cinéma.
On a des films qui traitent parfois très frontalement de questions telles que les migrations, les fractures politiques à l'intérieur des pays, les discriminations ou la répression policière. Selon vous, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette sélection?
Elle dit que l'Afrique souffre. Oui, qu'elle souffre particulièrement, en fait. On a tendance, en fait, à ne plus regarder les infos parce que c'est toujours des bad news et là le cinéma les petits films en disent long quoi, les violences faites contre les femmes, les discriminations, l'homophobie, vraiment que des sujets qui sont qui attristent, où on se dit que ça n'évolue pas, que le monde, oui, ça on sait qu'il va particulièrement mal, mais l'Afrique bien plus. Et cette jeunesse, elle reçoit toutes les souffrances.
Alors cette édition du Mobile Film Festival, elle est aussi l'occasion de voir s'exprimer quelques points de vue de femmes, devant et derrière la caméra, au Kenya, au Cameroun ou encore en Afrique du Sud. Vous êtes vous-même à l'origine de plusieurs initiatives qui visent à encourager la participation de femmes à la création cinématographique. Quel regard est-ce que vous portez sur cette édition à cet égard?
Elles sont trop peu. C'est ce que je continue à dire, en fait, c'est vraiment, les femmes sont trop peu nombreuses à s'exprimer, à être dans le milieu artistique de façon générale. Et puis là, je le ressens plus à travers la sélection. Il y a très peu de femmes, il y a moins d'une dizaine de films de femmes déjà. Et puis bon, aussi, c'est vrai que la position de la femme, elle est toujours un peu dans la même... La femme à l'écran, c'est toujours la femme victime. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est un peu difficile à voir parce que je pense que le format du cinéma est assez ouvert pour qu'on puisse raconter les histoires autrement. On peut parler de souffrance, de douleur, mais autrement. Donc c'est toujours cette position, cette victimisation de la femme qui me dérange en fait.
Isman Lamar, une réalisatrice tunisienne, membre du jury du Mobile Film Festival. Elle répondait aux questions de Samuel Glaise et Esteban. Et on reste en Tunisie avec la sortie d'un film choc dans le pays. Intitulé « La fuite », ce long métrage confronte un salafiste qui échappe à la police en se réfugiant chez une travailleuse du sexe. Dans ce huis clos adapté d'une pièce de théâtre à succès, le réalisateur et auteur Ghazi Zaghbani évoque tous les sujets tabous de la société tunisienne, de la sexualité au rapport à la religion. C'est un reportage à Tunis de notre correspondante Lilia Blaise.
Un salafiste face à une travailleuse du sexe. Pendant une heure et demie, la fuite confronte ces deux personnages que tout oppose dans un huis clos décapant et remet en cause certaines idées reçues sur ces deux profils rejetés par la société. Razi Zaghbani est réalisateur et auteur de la pièce qui a inspiré le film.
L'intérêt du film, c'est le huis clos et surtout le fait que le personnage salafiste soit lui-même dans son propre huis clos. Il y a deux mondes, celui de la travailleuse du sexe, Narges, qui lui parle d'en haut, de son lit, et lui qui est caché en dessous, emprisonné et écrasé littéralement par ses idées, et elle le provoque avec ses idées à elle aussi.
Des personnages qui se détestent mais parlent et finalement se désirent. À travers cette histoire atypique, Razi Zaghbani voulait provoquer aussi un débat dans une société prise entre des mœurs conservatrices et une volonté de modernité. Après certaines projections, l'auteur et l'actrice principale, Nadia Bousseta, n'hésite pas à débattre avec le public.
Il y a quelque chose comme ça, un va-et-vient qui m'a comme il aime.
C'est une lecture et une lecture qui se veut tolérante, je pense, avant tout. Et ça reste de la fiction. Il ne faut pas oublier qu'on ne se veut pas proche de la réalité. Au contraire, c'est une proposition qui survole toutes ces idées reçues de part et d'autre.
Et pour les spectateurs, la recette semble marcher, puisque le film est encore à l'affiche depuis plus de 2 mois, malgré les contraintes sanitaires. Sarah et Myriam, 2 sœurs, sont venues le voir par curiosité.
Moi, j'ai aimé la contradiction entre les deux personnages. Comment chacun vient d'un monde différent mais arrive à communiquer et à se découvrir, seul enfermé dans une pièce ensemble, et comment, au final, ils en arrivent à une forme d'acceptation.
Le réalisateur et auteur du texte a mis l'accent à travers ces deux personnages antithétiques sur tout ce qui ne va pas dans la société et les problèmes que nous avons.
Une société qui discute et se dispute ouvertement. Si le 7e art a souvent échappé à la censure de la dictature en Tunisie, la révolution de 2011 a permis une nouvelle liberté d'expression sur ces sujets complexes qui font encore débat jusqu'à présent. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Et c'est avec ce reportage de Lilia Blaise que s'achève notre émission « Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui ». Au micro, Elisabeth Le Quéré
et Sophie Torlotin, à la réalisation Fanny Renard.
On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma. Nous serons en compagnie d'Aïssa Maïga pour son documentaire « Regard noir » sur la représentation des femmes noires à l'écran. D'ici là, bonne semaine à tous.
Ainsi s'achève la 46e cérémonie des Césars. Bravo à tous les gagnants. Malheureusement, on ne peut pas se faire cette année la photo de famille qu'on aime tant et vous faire monter sur scène. Bravo à vous tous. Cette année, comme tous les ans, il y a beaucoup de perdants flamboyants, de perdants magnifiques. Bravo à vous aussi.